Alors, j'espère que tout votre confinement se passe bien et que je sais que vous êtes à la maison, hein, vous êtes un peu comme tout le monde. Mais vous savez qu'on a de la chance d'être à la maison parce que quand je regarde les informations et puis que je vois ces gens qui sont sur un bateau ou à l'étranger et qui tentent de revenir et toute la galère que ça peut représenter, les risques que ça peut représenter aussi. Des fois, les moyens financiers de pouvoir revenir, eh ben, je me dis qu'on a bien de la chance d'être confiné à la maison. Comme disait James Jordan à mon épouse, là, alors qu'il s'envoyait des SMS hier soir, James Jordan disait, oui, mais finalement, pour moi, le confinement, c'est plutôt chouette, j'ai des choses à faire à la maison. Et bon, dans la nature de la Nouvelle-Zélande, ça lui allait bien, c'était pas difficile comme il a dit. Bon, mais pour d'autres personnes, je sais que c'est difficile, mais on a quand même la chance d'être à la maison. J'écoutais Marc Gide il y a pas si longtemps et il disait le confinement est arrivé lorsque j'étais en Pologne et il a fallu rejoindre l'Angleterre. Ça a été compliqué. Et quand il est arrivé en Angleterre chez lui, il a dit, ben, j'ai jamais été aussi content d'être arrivé chez moi. Et je crois que c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde les choses qui sont réellement différentes maintenant par rapport à ce qu'elles étaient il y a seulement finalement quelques semaines, quelques jours, c'est vraiment incroyable. Et je me suis inspiré d'une pensée de Marc pour écrire ce message. Et je voudrais parler de l'histoire de Noé dans les premiers chapitres de la Genèse. Cette histoire de Noé, elle concerne et elle nous parle tout particulièrement de l'alliance éternelle que le Père a conclue avec ses enfants. Une alliance qui dure. Elle a été donnée par Dieu dès le départ de la Genèse, dans les tout premiers chapitres de la Genèse, dans les tout premiers instants quelque part de la terre et de son humanité, même déchue, mais de la vie avec Dieu. Et à cette occasion, dans cette histoire, Dieu a fait une alliance avec Noé. Et le signe de cette alliance se retrouve aujourd'hui dans l'arc-en-ciel. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher lorsque je vois un arc dans le ciel, lorsque je vois The Rainbow, hein, comme ils disent les Anglais, c'est ce magnifique couleur, hein, qui sont derrière en général un fond d'orage, donc plutôt sombre, de penser à l'histoire de Noé, de penser à cette alliance. Moi, quand je le vois, j'y pense, et c'est pour moi un signe d'espoir et une alliance. Ça me rappelle l'alliance que notre Père a faite avec nous. Au moment de Noé. Je me dis, c'est quand même un signe visible extraordinaire. Et historiquement, l'arc-en-ciel a toujours été, quelque part, depuis cette période-là, un signe d'espoir. Même si ces dernières années, on a vu l'arc-en-ciel détourné au profit de certaines populations, mais au départ, c'est un signe d'espoir. Et j'ai appris qu'en Angleterre, eh ben, durant ce temps de confinement, les Anglais posaient des arcs-en-ciel sur leurs fenêtres pour rappeler quelque part l'espoir qu'ils avaient dans cette période. Et je trouve c'est plutôt chouette. C'est l'occasion finalement de récupérer, de reprendre ce qui nous revient de droit et que d'autres se sont attribués. D'ailleurs, pas pour des bonnes choses, mais ça nous permet de revendiquer l'alliance, la promesse, la fidélité que Dieu a pour nous. Et vous savez, le Père, il nous aime, nous sommes ses enfants. Quelque part, il nous appartient dans le sens que nous l'aimons aussi, à nous, ses enfants. Et en aucun cas, c'est pour autre chose que ça. Évidemment, l'histoire de Noé, vous la connaissez tous. Dieu déclare qu'il va pleuvoir, qu'il va y avoir un déluge, que ce déluge va effacer toute la vie sur la terre et tout ce qui est en dehors de l'arche. Et nous savons très bien que Noé a construit l'arche, qu'il y a mis toute sa famille, ses trois enfants et leurs trois conjoints. Il a mis un couple d'animaux ou plusieurs couples d'animaux à l'intérieur et ils sont restés là en sécurité. Et d'ailleurs, pour ceux qui, si ma fille était là, je suis sûr qu'elle dirait que c'est comme ça qu'on a perdu les licornes. Hein, il s'est trompé au moment de mettre dans l'arche. Il a mis deux mâles au lieu d'un mâle et une femelle, et c'est comme ça qu'on a perdu les licornes. Hein, bon, joke. Mais juste avant que Noé ne reçoive cet ordre de construire l'arche, parce qu'il va y avoir un déluge, on peut lire que au tout début de cette histoire, on peut lire les mots que Dieu prononce. Il dit, j'établis mon alliance. J'établis mon alliance. Au tout début de l'histoire, avant même que le déluge ait eu lieu, avant même que la dévastation se fasse, sur la terre, avant que tout ne soit détruit, le Père dit, je le fais. J'établis mon alliance. Et à chaque fois que Dieu dit, je le fais, il le fait. Il est fiable. Nous pouvons compter sur sa parole. Je le fais. Je vais établir mon alliance. Et il poursuit en disant, je subviendrai à vos besoins et à ceux de ta famille. Je subviendrai à vos besoins. Il les met dans un endroit sûr, un refuge où rien ne leur manquera. Et chaque fois que Dieu dit, je le fais, il le fait. Et dans ce verset, il dit encore, je le fais, je subviendrai à vos besoins, je prendrai soin de ta famille. Et il dit, je détruirai aussi toute créature vivante. Et il l'a fait. Alors on va pas regarder ni s'intéresser à la partie du jugement aujourd'hui, mais ce sur quoi j'aimerais qu'on se concentre, c'est sur son alliance d'amour qu'il a créée avec ceux qu'il aime. Son alliance d'amour éternel. Parce que cette alliance d'amour est aussi forte et réelle pour nous aujourd'hui qu'elle ne l'a été pour Noé à l'époque. Et cette alliance d'amour n'a jamais, jamais, jamais changé. En fait, l'alliance d'amour a toujours existé avant même que Dieu le Père ne la prononce dans le chapitre 6 de la Genèse. L'alliance d'amour, elle a été établie avant le début des temps. Voyez-vous, lorsque Jésus, le Père, le Saint-Esprit étaient là, Dieu lui-même, qui ne forme qu'un en trois personnes, ils discutaient entre eux et ils ont décidé qu'ils voulaient partager l'amour qu'ils vivaient ensemble, l'amour qu'ils vivent ensemble, la relation qu'ils vivent ensemble. Et c'est quand ils ont décidé qu'ils voulaient partager cela en famille qu'ils ont décidé de nous créer. C'est là que l'alliance d'amour a démarré. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme à partir de cette alliance d'amour. Et c'est par amour que la terre a été créée, c'est par amour que l'environnement de la terre a été créé, que les cieux, que l'univers tout entier a été créé. Et nous avons besoin de savoir que nous sommes nés de l'amour de Dieu. Hallelujah. Vous savez, quand on est orphelin de père, moi j'ai été orphelin de père pendant des années, je ne connaissais pas mon père. Il y avait une recherche au fond de mon cœur, c'était de savoir qui était mon père. Mais pourquoi on a cette soif quelque part? Eh ben, c'est de savoir si finalement on est aimé, on a été voulu, on a été aimé de la part de nos parents, de la part de ceux qui nous ont amenés à la vie terrestre, physique. Et dans cette recherche, je peux vous dire une chose. C'est que si vos parents eux-mêmes ne vous ont pas désiré à ce moment-là, il y en a un qui vous a toujours désiré, qui vous a toujours voulu et qui a fait une alliance d'amour avec vous. C'est le Père céleste lui-même. Dieu nous a toujours voulu. Il nous a créés par amour pour vivre dans cette alliance d'amour. Il a toujours voulu que nous soyons avec lui. Et en réalité, dans cette histoire de Noé, ce que Dieu fait, c'est qu'il rappelle à Noé la promesse, l'alliance qui a été établie dans tous les temps. Et en ce qui concerne Dieu, l'alliance qu'il nous a donnée, elle est inviolable, elle est inchangeable. C'est une alliance qui ne se modifiera pas, c'est une alliance qui ne change jamais. C'est une alliance qui est une garantie solide comme le roc. Nous, humains, quand nous parlons d'alliance, parfois, on n'est pas très fiable. On conclut des alliances, mais on n'est pas très fiable. On n'est pas fiable à 100% et on doit le reconnaître. Ne serait-ce qu'à regarder les alliances que les gens, les vœux d'alliance que les gens peuvent faire lors du mariage. Et puis malheureusement, pour une raison ou une autre, c'est pas une accusation que je suis en train de donner, mais certains brisent leurs vœux et leurs vœux d'alliance et l'alliance se retrouve rompue. Mais quand Dieu dit je vais établir ou j'établis mon alliance, il veut dire qu'elle est établie pour toujours. Et je tiens vraiment à le souligner, nous vivons aujourd'hui au centre de son alliance et de son peuple. Le monde peut paraître fou actuellement. Et je veux dire, qui aurait cru qu'il aurait pu changer si rapidement en si peu de temps? En un certain sens, sans même la main de l'homme, sans même le contrôle de l'homme, il a tout simplement changé. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de doutes, les gens sont secoués et ébranlés, mais pour nous, frères et sœurs, et ça c'est important et je veux vraiment vous encourager là-dedans, nous vivons au centre d'une alliance inébranlable, une alliance d'amour. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est si précieux. Tout comme le Père a créé notre environnement, la terre et tout ce qu'elle renferme, il nous a placés, non pas seulement dans un environnement physique, mais il nous a placés dans une alliance d'amour qui nous concerne dans l'âme et dans l'esprit. Et c'est là que nous vivons. C'est là que nous vivons, dans cet environnement, dans cette alliance d'amour. Comme dans l'histoire de Noé. Tout ce que l'homme a créé, toutes les œuvres de l'homme ont été détruites au moment de Noé. Vous avez remarqué? Mais Dieu fournit un lieu sûr pour Noé, pour sa famille et pour sa création. Ils ont été gardés en sécurité pendant la montée des eaux. Nous connaissons l'histoire, mais à la fin de l'histoire, quand Noé, sa famille et les animaux sont sortis de l'arche, quand ils sont retournés sur la terre ferme, peut-être elle était un peu boueuse à l'époque, mais Dieu vient à Noé et il s'établit à nouveau cette alliance avec lui. Et il dit, plus jamais je ne maudirai la terre, plus jamais je ne détruirai toutes les créatures vivantes. Nous vivons dans une période de l'histoire où on a l'impression que tout est détruit autour de nous. Certains ont l'impression de vivre une malédiction, un jugement. C'est comme si nous avions un ennemi invisible dont nous ne savons pas où il va surgir. Nous ne savons pas vraiment comment le combattre. Mais pourtant, nous avons les promesses de notre Père. Et dans l'incertitude, dans les doutes, c'est notre confiance. C'est là que nous pouvons poser notre confiance. Nous sommes dans son alliance d'amour. Nous sommes avec lui. Il est avec nous tous les jours. Aujourd'hui même, il est avec nous. Et bien sûr, vous et moi, on se retrouve affectés par cette situation. Et quand on va faire des courses, je ne sais pas si vous avez été faire des courses cette semaine, mais ma femme a été faire des courses cette semaine. Elle se laisse inspirer par Dieu avec Jean, là, ils y sont allés ensemble. Elle se laisse inspirer par Dieu pour voir dans quel magasin elle va aller. Je suis sûr que Dieu conduit les choses pour qu'elle puisse trouver le maximum de ce qu'elle a sur sa liste de courses. Et on ne trouve pas tout ce qu'on veut, on est tous pareils. Mais en cette saison où tout le monde panique, notre Père promet de ne pas nous abandonner et il nous promet une manne qui est quotidienne. Il nous promet de nous apporter ce dont nous avons besoin chaque jour. Pas plus, pas moins, mais ce dont nous avons besoin chaque jour. Vous savez, moi je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle dans ma jeunesse, j'étais pas chrétien protestant, j'ai vécu une tradition catholique. Et dans cette tradition catholique, on chantait, on récitait, donc c'était pas forcément avec foi, mais on récitait Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je crois que ces mots, pour certaines personnes aujourd'hui, sont une prière qui est très, 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 très réelle. Donne-nous notre pain quotidien. Montre-nous, donne-nous la manne qui vient du ciel, ce dont nous avons besoin chaque jour pour avancer. Et certes, il faut être un petit peu créatif, il faut être parfois à l'écoute de ce que de l'esprit qui nous dirige, mais nous avons un Père qui nous promet de nous donner notre pain quotidien, de nous apporter ce dont nous avons besoin. Nous avons cette promesse et nous pouvons partager cette promesse avec les autres. Quand Noé sort de l'arche, ce que nous voyons aussi, c'est une promesse de continuité de la création. Tout ce que Dieu le Père a fait continue à exister. J'entends bien. Tout ce que le Père a fait continue d'exister. Quand il dit dans la Genèse au chapitre 8 et au verset 22, « Tant que la terre durera, il y aura des semences et des récoltes. Il y aura du froid et de la chaleur. Il y aura l'été et l'hiver. Le jour et la nuit ne cesseront pas. » C'est la promesse de notre Père. « Tant que la terre durera, il y aura des semences et des récoltes. Il y aura l'été et l'hiver. Il y aura du froid et de la chaleur. Le jour et la nuit ne cesseront pas. » Les mesures de restriction que nous vivons sont uniques dans notre pays comme dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et quand nous avons entendu ces mesures pour la première fois à la radio, à la télé, quand nous entendons les infos autour de nous chaque soir, quand nous nous couchons, nous pouvons être troublés. Nous pouvons avoir comme encore un bourdonnement dans nos oreilles de tout ce que le monde est en train de vivre. Et quand le matin, pourtant, on se réveille, quand on ouvre la porte, quand on ouvre la fenêtre, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'est-ce qu'on voit? Que rien n'a changé, finalement. Les oiseaux chantent, les fleurs poussent encore, il y a des fleurs sur les arbres, des bourgeons qui poussent, des fleurs qui sont là et qui éclosent quelque part, rien n'a changé. N'est-ce pas étonnant? Tout ce qui est de l'homme a été ébranlé, mais tout ce qui est de Dieu et que Dieu a créé continue. Cela perdure, c'est toujours pareil, ça existe encore. Et c'est très encourageant d'ouvrir la porte le matin ou d'ouvrir la fenêtre le matin et de voir que rien n'a changé. Les oiseaux chantent toujours. Et les fleurs poussent encore. Le jardin est le même hier qu'aujourd'hui. Quelle belle image de la fidélité de Dieu envers nous, de la fidélité du Père envers nous. Dans un certain sens, rien n'a changé. Mais vu d'un autre angle, tout a changé. C'est ça. Quand on regarde la nature et le jardin, c'est comme une image de l'environnement que Dieu notre Père a mis autour de nous. Dans son alliance éternelle, rien n'a changé. Il est toujours pareil. Le monde autour de nous a peut-être changé, les difficultés sont peut-être là, les contraintes sont peut-être là, la privation de liberté physique est peut-être là, mais rien n'a changé dans son amour. Rien n'a changé dans l'amour et l'alliance d'amour qu'il a fait avec toi. Rien n'a changé dans l'amour qu'il déverse pour toi. Rien n'a changé dans l'intérêt qu'il a de ta vie. Rien n'a changé. Ce qui compte vraiment, c'est que notre Père soit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Notre héritage éternel est aussi solide que le roc. C'est le même qu'il y a une ou deux semaines ou trois semaines. C'est exactement le même. Nous sommes spirituellement et affectivement dans le même héritage envers notre Père. Alors certes, c'est difficile au niveau physique pour certains, mais je vous garantis que l'amour de notre Père n'a pas changé envers vous. C'est un réel encouragement. Dieu n'a pas changé. Et ce que Dieu a créé, a-t-il dit, était bon dans Genèse. Il a même dit, en le regardant, c'était très bon. Très bon. Venant de lui, je pense que c'était parfait. Et c'est vrai, et cela continue d'être vrai, comme le fait que nous vivions dans un environnement qui est une alliance d'amour avec nous. Tout ce qui est de l'homme est ébranlé. Qui sait ce que ce sera quand tout sera terminé? La création, par contre, elle vit une respiration, une profonde respiration. Il n'y a plus d'avions dans le ciel, il n'y a plus de pollution. On regardait hier les informations et ils montraient Venise, on voyait l'eau qui était claire. Et Dieu a fait en sorte finalement que la création tout entière respire. Et on lit dans Romains 8, la création attend avec impatience ou avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. C'est comme si la création respirait. Et nous savons bien, au travers de Romains, que cela n'arrive que lorsque des fils et des filles, remplis d'amour du Père, se lèvent et paraissent. Ma foi a été secouée. Votre foi a peut-être été secouée, et elle est peut-être encore secouée. Mais nous sommes établis, réétablis quelque part, sur ce qui compte vraiment, ramenés sur les bases solides et les fondements de notre foi. J'ai aimé ce témoignage de Samuel Peter Schmidt, que je connais depuis bien longtemps, qui est une église que je n'aurais pas fréquentée de ces dernières années parce que ça ne me correspondait plus. Mais par contre, au travers de ce qu'il a vécu, je pense qu'il a totalement changé. Il a vécu une rencontre avec Dieu. Sa foi a été secouée, mais il a été réétabli sur ce qui compte vraiment. Nous avons une base solide. Nous pouvons maintenant regarder les choses autour de nous et nous pouvons voir que notre Dieu, lui, n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et j'ai eu l'occasion de regarder un petit clip de Billy Graham qui fait, je sais pas, une petite minute à peu près. Et évidemment, ça a été enregistré il y a quelques années maintenant. Pour ceux qui connaissent pas, je pense peut-être à Amrish. Billy Graham a été quelqu'un, un pasteur impressionnant, d'évangélisation majoritairement. Il a amené des milliers d'âmes, si ce n'est des millions à Dieu. Il a fait des campagnes d'évangélisation où il a prêché la parole de Dieu sur au travers de la télé à l'époque. Hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et il a fait des campagnes mondiales d'évangélisation. Des gens se sont tournés vers Dieu. C'était en 1973 jusqu'à 1990 à peu près, 80, 90. Et franchement, les gens ont été transformés. Et Billy Graham faisait aussi, était le pasteur qui amenait la Bible au président américain et sur lequel le président américain priait et jurait de servir sa nation et de respecter Dieu. Bon, maintenant, il est, si mes souvenirs sont bons, il est décédé. Mais j'ai retrouvé un de ses clips et ce clip dit « Dieu est toujours sur le trône ». Faut entendre Billy Graham prêcher. Il parle avec force, avec vigueur, avec assurance. Dieu est toujours sur le trône. Le Père est toujours sur le trône. Et vous savez quoi? C'est la meilleure nouvelle que ce que l'on peut entendre dans ces temps. Parce que notre espoir, il n'est pas dans ce que les hommes sont capables de faire. Notre espoir, il n'est pas dans le système mondial. Notre espoir, il n'est pas dans le système financier. Vous savez, j'avais des économies, j'avais quelques économies en bourse, elles sont toutes crachées. Notre espoir, il n'est pas dans la bourse. Notre espoir, il est en lui. Je sais que les choses sont difficiles pour certaines personnes. Je sais que les magasins sont vides et que certaines denrées sont difficiles à trouver. Je sais que nous avons des restrictions. Je sais qu'il y a de la folie dans ce que nous vivons. Tout a changé, mais rien n'a changé. J'ai compris que notre Père est toujours sur le trône. Il est celui qui règne, il est celui qui vous aime, il est celui qui vous embrasse, il est celui qui prend soin de vous, il est celui qui pourvoit à vos besoins, il est celui qui vous met en sécurité, il est celui qui vous amène la manne quand vous en avez besoin. Ce qui est bien, quelque part, dans une crise comme celle-là, c'est qu'elle fait ressortir à la fois le meilleur des gens, mais ce qui est triste, c'est qu'elle fait ressortir aussi le pire des gens, dans leur égoïsme, dans leur intérêt pour eux-mêmes. Mais au travers des tensions qui sont vécues, ça devient tellement criard, les deux extrêmes deviennent tellement criards, ça devient tellement évident, cet écart entre le meilleur et le pire devient tellement évident. Il a toujours existé, mais il est encore mis au jour, il se voit encore plus. Et je voudrais vous inviter à vous concentrer non pas sur le pire, mais sur les bonnes choses qui se passent, sur le fait que des hommes et des femmes se proposent pour servir les autres, se proposent pour se donner aux autres, proposent de leurs moyens pour se donner aux autres, pour passer la crise, que des hommes et des femmes puissent se remettre en question, puissent se tourner vers Dieu. Je crois qu'il y a au travers de cela une population qui va réellement se tourner vers Dieu, qui va réellement s'attacher à Dieu, qui va s'intéresser à Dieu, qui va changer d'objectif, qui va revenir aux choses qui sont essentielles, aux promesses qui sont éternelles. Et ça, c'est très, très encourageant. Quand on regarde par la fenêtre ou par la porte, on peut voir physiquement cette démonstration de la fidélité du Père. Les oiseaux chantent, les plantes poussent. J'ai vu sa bénédiction, j'ai vu sa fécondité. Cela ne peut que me rappeler les paroles que Dieu a adressées à Noé. Je me souviendrai de mon alliance pour toutes les générations à venir. Lorsque l'arche est présente sur la terre, il dit, je me souviendrai. Ça sera comme un rappel pour moi aussi de l'alliance que j'ai faite pour toutes les générations à venir. Et quand Dieu dit, je fais, il le fait. Il dit, je me souviendrai de mon alliance, il s'en souviendra. C'est une alliance pour toutes les générations. Frères et sœurs, c'est une alliance qu'il a établie au début des temps et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est une alliance d'amour et nous vivons dedans. Regardez l'histoire de Noé et de l'alliance. C'est une alliance qui traverse les générations, l'alliance de l'amour. Alors, j'aimerais terminer en prenant le psaume 33 et quelques versets qui vont venir nous alimenter dans cette réflexion. Le psaume 33 est un psaume de louange au Seigneur et il nous rappelle la fidélité inébranlable du Père Céleste. Je veux dire, laissez-moi vous exprimer quelques points, si vous voulez bien, à l'intérieur du psaume 33. Il est dit au verset 8 que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je ne pense pas de mon vivant que nous n'ayons eu autant le sentiment et le besoin de craindre l'Éternel, comme Job l'a craint. Non pas qu'il faut avoir peur de lui, parce qu'il a réellement fait une alliance d'amour avec nous, mais il parle ici de la révérence, de l'adoration à notre Dieu pour ce qu'il est, pour reconnaître qui il est. Comme le disait Samuel Peter Schmidt dans sa vidéo, « Je pense que les hommes sont orgueilleux, ils ont dit des choses » sans connaître Dieu. Ils ont été arrogants, il a utilisé le terme, arrogants vis-à-vis de Dieu. Et je pense que c'est le cas. C'est lui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est lui qui a créé les grands animaux et les petits. C'est lui qui a fait l'univers. C'est lui qui a créé les mécanismes célestes. C'est lui qui a créé tous les mécanismes biologiques. C'est lui qui nous aime. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, a dit Job. Et il parle au cœur. Vous savez pourquoi j'ai aimé le témoignage de Samuel? C'est parce que finalement dans le témoignage de Samuel, c'est un homme qui parle de son propre cœur et qui parle au cœur. Et j'écouterai ceux dont le cœur parle avec le langage du Père. J'écouterai ces gens-là. J'écouterai que Dieu est amour. J'écouterai celui qui parle avec amour. Si tu n'as pas l'amour, dit la parole de Dieu, tu es une cymbale qui résonne. Si ton discours ne contient pas de l'amour, que tu parles juste pour parler, tu es juste une cymbale qui résonne. Quand bien même tu guéris tous les malades, quand bien même tu as toute la connaissance jusqu'à percer les mystères, tu as toute la connaissance. Tu te rends compte de ce que ça veut dire. Tu comprends tout à l'intérieur de la parole de Dieu. Tu comprends tout à l'intérieur du monde physique. Tu comprends tous les enseignements. Tu as toute la connaissance jusqu'à percer tous les mystères. Quand bien même tu prophétiserais, si tu n'as pas le langage de l'amour, si tu n'as pas le langage du cœur, tu es une cymbale qui résonne, qui a poussé Dieu à humblement venir sur terre, se sacrifier sur la croix. Qui l'a fait? Il a accepté d'être jugé, condamné, tué par sa propre création pour la sauver. Il s'est sacrifié pour la sauver. On va arriver à la Pâque. La Pâque, c'est ça. La Pâque, c'est ça. Si tu n'as pas l'amour, il manque quelque chose. Et c'est exactement le message de dimanche dernier. Combat le bon combat de la foi. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention, écoute ce que Dieu dit. Et c'est là que tu traverseras l'épreuve, c'est là que tu combattras le bon combat, c'est là que tu retrouveras la force dont tu as besoin. Nous vivons un temps où l'humanité entière a besoin de craindre l'Éternel. L'humanité a besoin de reconnaître et de se présenter devant le Seigneur, Dieu, dans l'adoration et la révérence. Mais non seulement l'humanité, mais l'Église aussi doit le faire. L'Église aussi, arrogante, comme disait Samuel, doit le faire. C'est facile pour nous. Nous sommes ses enfants, ceux qui ont compris, ceux qui ont saisi, ceux qui sont rentrés dans cet appel. Christ a été respectueux de son Dieu et de son Père. Et en tant que fils et fille, même si les choses sont difficiles, et je sais qu'elles peuvent être difficiles pour beaucoup de gens, nous sommes invités, nous aussi, à l'adorer de tout notre cœur, à dire qui est notre Père pour nous, combien il est grand, combien il est merveilleux, combien on le remercie de tout ce que nous avons. Choisissons ce que notre cœur entend. Que notre cœur soit dirigé dans la bonne direction. Et c'est exactement ce que disait la prédication de la semaine dernière. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de textes. Mais ce qui est important, c'est que le cœur parle. Le psaume 33 nous encourage que la terre craigne l'Éternel, que la terre se prosterne devant lui, qu'elle ait du respect pour le Père. Et le point suivant que j'aimerais tirer de ce psaume est que notre Dieu est Père, et c'est écrit, déjoue les plans des nations. Waouh ! Le Seigneur déjoue les plans des nations. Le Père déjoue les plans des nations. Et on peut dire que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. On est en plein dedans. Beaucoup de plans de l'homme ont été mis à néant. Vous savez, j'avais un agenda qui était plein. J'avais un agenda personnel qui était plein. J'avais un agenda professionnel qui était plein. Il y avait plein de rendez-vous dedans. Et je suis persuadé que pour tout le monde, c'était la même chose. Je suis persuadé que même pour les sociétés, pour les nations, pour les présidents, pour les rois, pour les gouverneurs, pour les premiers ministres, c'était exactement la même chose. Mais leur agenda s'est vidé de tous les plans qu'ils avaient faits, comme j'ai vidé les miens de tous les plans que l'homme avait faits. Et dans ce verset que je veux faire particulièrement ressortir, c'est la fin du verset qui dit, et c'est là notre espérance, c'est là sur quoi nous pouvons construire nos vies, sur ce verset, il dit, les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. C'est un verset si important pour nous. C'est une fondation sur laquelle nous pouvons nous baser, que notre espérance et notre foi soient renouvelées par ce verset. Et j'aimerais lire toute la fin du psaume qui nous dit, à partir du verset 10, « L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. » L'Éternel regarde du haut du ciel et il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui a façonné leur cœur à tous. Il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, et non. Ce n'est pas une grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur tous ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et j'aime la traduction de la NIV, la New International Version, qui dit « Son amour indéfectible, sur ceux qui espèrent en son amour indéfectible. » On le sait dans nos traductions françaises, ce qui est du cœur est très mal traduit. Mais ce qui est écrit dans la traduction anglaise est écrit avec plus de vérité, plus de sens, plus de profondeur et plus d'impact sur ceux qui espèrent en son amour indéfectible afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même au temps de la famine. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en ton saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous quand nous espérons en toi. Alléluia. Je n'aurais jamais pensé pouvoir dire ces mots avec autant de réalité face à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Beaucoup de gens dans le monde entier voient la faim, l'approvisionnement comme un véritable problème, un problème qui est grave. J'ai vécu ça en Afrique lorsque j'étais en mission, mais aujourd'hui, c'est pas seulement en Afrique, dans des contrées reculées, mais c'est pour le monde entier. Ce que nous lisons, c'est qu'un roi ne peut pas se sauver par sa propre force ou par la taille de son armée. Et on le voit au travers des informations. Un président ne peut pas sauver un masque ou ne peut pas sauver les gens ou ne peut pas sauver je ne sais pas quoi par sa propre force ou la taille de son armée. Il peut améliorer la situation, mais il ne peut pas sauver. C'est l'Éternel, notre bienveillant Père, qui regarde ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en son amour indéfectible. Et lui ne regarde pas la globalité, il regarde chaque personne. Un président, lui, il travaille à la masse, il travaille aux statistiques. Mais le Père, lui, il n'est pas limité par ça. Il regarde chaque personne, il te regarde toi dans ton besoin, il t'écoute à toi dans ton besoin, il veut te voir toi dans ton besoin. Et c'est cet amour infaillible, cet amour indéfectible qui te soutient et qui te porte et qui te tient. Les plans de notre Père sont pour toujours vrais. Les desseins de son cœur coulent au travers des générations. Les plans de Dieu n'ont jamais changé. Vous savez, Dieu n'est pas troublé par les problèmes que nous pouvons rencontrer, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et pour le moment. Dieu savait que cela allait arriver. Il ne panique pas. Il n'est pas en crise. Ses ressources ne sont pas atteintes. Il est sur le trône. Il est dans un repos complet, total. Il est un père qui est en paix et qui gère pour ses enfants. Alors, je sais que nous, on peut être confrontés à de nombreuses situations, parfois complexes, parfois difficiles, et nous n'avons aucune idée de la durée réelle de cette nouvelle réalité humaine, mais notre Père Céleste, lui, est sur le trône. Il veille, il est dans le repos, il est dans une paix complète et absolue. Faisons-lui confiance, portez-lui confiance. Il est dit dans le psaume 33, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent et qui mettent leur espoir dans son amour indéfectible. Moi, je mets mon espoir dans le Père. Moi, je mets mon espoir dans le Père. C'est un véritable encouragement que je veux vous donner. Mettez votre espoir dans le Père. Faites-lui confiance. Espérez parfois avec patience, c'est vrai, dans notre Père. Mais au travers de toutes les difficultés, il nous en sortira toujours parce qu'il est grand et fort. Soyons humbles de sa position. Il n'est pas n'importe qui. Il est notre Père, celui qui a créé les cieux et la terre. Et je vous encourage à mettre votre espoir dans son amour indéfectible. Nous pouvons tirer de son amour toute la solidité dont nous avons besoin et la force pour passer l'épreuve parce que son amour ne changera pas. Et c'est quoi son amour? Dans Exode 30, au verset 4, il dit, il est compatissant, compatissant. Dieu est un amour de compassion. Il est un Dieu d'amour. C'est un Père compatissant qui se soucie profondément de nous. Vous savez ce que c'est que la compassion? C'est d'aller à la rencontre de l'autre, de souffrir avec lui, de passer avec lui l'épreuve. Il est compatissant. Il se soucie de nous. Il se soucie profondément de chaque personne. Pas d'une globalité, pas d'une masse. Tu n'es pas noyé dans la masse, mais il se soucie de toi, de chaque personne qui est en vie aujourd'hui. Il subvient à tes besoins. Il veut que tu sois en sécurité. C'est un Père compatissant et aimant, plein de bonté. Et alors que nous traversons ensemble cette période difficile, il est lent à se mettre en colère. Il est plein de grâce et de miséricorde, notre Père. Son amour est débordant et il est fidèle. Quand nous venons vers lui et que nous mettons notre espoir dans son amour indéfectible, nous mettons notre espoir et notre confiance, alors avec sa grâce, sa compassion, sa lenteur à se mettre en colère, son amour sans fin, sa fidélité, nous pouvons voir qui est notre Dieu. Et c'est exactement ce qu'il dit à Moïse dans Exode au chapitre 34, versets 6 et 7. L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il garde son amour pour toi. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. C'est l'amour sur lequel nous pouvons nous baser, sur lequel nous pouvons avoir confiance et sur lequel nous pouvons compter. Et vous savez, cet amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13 nous le redit. On en a parlé juste avant, à l'introduction de 1 Corinthiens 13 tout à l'heure. Si on manque d'amour, on n'est rien, on est une symbole qui résonne. Mais 1 Corinthiens 13 nous rappelle ce qu'est l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et c'est tout ce qu'il éprouve pour toi. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Son amour pardonne tout. Son amour croit tout. Son amour espère tout. Son amour supporte tout. Son amour ne meurt jamais. Nous avons un Père qui nous protège. Nous avons un Père qui persévère en notre faveur. Nous avons un Père qui n'échoue jamais. Et il y a tant de certitudes, tant d'incertitudes dans ce monde. Il y a tant d'échecs dans ce monde. Mais notre Père est fidèle et nous sommes dans son alliance d'amour. Et l'amour de notre Père n'échoue jamais. Voilà qui est notre Dieu et Père. C'est en lui que nous sommes, c'est en lui que nous sommes cachés, c'est en lui que nous sommes protégés et en sécurité, c'est en lui que nous nous basons, c'est lui que nous aimons. Il n'a pas changé en 15 jours, 3 semaines, il n'a pas changé. C'est en lui que nous avons confiance, c'est lui qui est pour nous. C'est lui qui aspire à répandre son amour à l'intérieur de nos cœurs et à nous mettre au large, afin que nous connaissions la sécurité de sa demeure, afin que nous fassions de sa demeure notre maison. Et elle est large et spacieuse. Elle n'est pas pleine de contraintes. Elle est pleine de liberté. Là, nous pourrons nous cacher à l'abri de ses ailes. Là, toi et moi, nous pourrons trouver refuge. Là, toi et moi, nous serons protégés et gardés par notre Père. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est le visage de notre Père qui est fidèle. Et il dit à Noé, je le fais, j'établis mon alliance. Et quand il dit je le fais, il le fait. Ce pacte, cette alliance, elle est toujours valable pour toi comme pour moi, comme elle l'a été au temps de Noé. Nous vivons au centre de cette alliance d'amour quand Dieu a décidé d'avoir une famille, d'une alliance de provision, d'une alliance de fidélité. Alors que les changements importants se produisent autour de nous, d'une certaine manière, rien n'a changé. Dieu est toujours sur le trône et il est toujours notre Père. Regarde les oiseaux des champs. Regarde, ils chantent toujours. Regarde les fleurs. Elles continuent à pousser. En regardant la nature, on peut avoir l'impression de voir une image de la fidélité de notre Père. Alors que tout a changé, dans un certain sens, c'est très réel, rien n'a changé. Les plans de Dieu restent fermes pour toujours. Ses desseins sont établis et ils vont s'accomplir à travers de toutes les générations. Les yeux du Seigneur, les yeux de Dieu notre Père sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui mettent leur espoir en lui, sur ceux qui mettent leur espoir dans son amour indéfectible, qui ne change pas. Si vous avez une inquiétude, une préoccupation, une crainte personnelle, on va prier à la fin. Mais saisissez, saisissez la fidélité de Dieu pour vous, sa provision, sa compassion, sa grâce, sa fidélité, sa bonté. Alors, je suis honnête avec vous, je suis pas meilleur que vous. Je suis pas un surhomme, il n'y a pas un S là qui se balade Superman là, sur mon torse, loin de là. Je suis un homme comme vous. Ma mission et ce que Dieu m'a confié, c'est de partager sa parole. Mais je suis comme vous, je suis fait du même bois que vous. Et il y a des moments où on peut lutter et où des choses viennent agresser mes pensées. Et je dois choisir avec le bon combat de la foi ce en quoi je me raccroche, quelle doctrine je me raccroche. Est-ce que c'est une doctrine inventée par les hommes ou est-ce que c'est une doctrine qui vient du cœur de Dieu et de son amour? Et il y a des moments où je peux lutter, mais c'est comme si les bases de ma vie sont parfois ébranlées, mais je reviens dans la confiance de mon Père. Je sais qu'il m'aime. J'ai l'assurance que rien ne me séparera de son amour. Comme Paul l'a pu le dire, ça s'est pas fait en un jour, mais il pouvait le dire, j'ai l'assurance. Vous savez, l'assurance, c'est quand tu es vraiment sûr. C'est quand tu es suspendu au bout d'une corde sur une falaise et que tu as l'assurance que ta corde va tenir. Là, tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Ta vie est en jeu. Paul a eu sa vie en jeu, mais il avait l'assurance que l'amour du Père ne le quitterait pas. Rien ne le séparerait de son amour. Il peut y avoir de la panique au travail, j'entends et j'écoute les gens qui sont en panique. Il peut y avoir une partie de nos finances, j'en ai parlé tout à l'heure, pour qui la bourse a chuté, pour qui finalement il va falloir pourvoir à des besoins qui n'étaient pas prévus, planifiés. Et on ne sait pas comment l'argent va rentrer à l'intérieur du compte, et je m'attends à des témoignages extraordinaires de la part des frères et sœurs sur la façon dont Dieu aura pourvu pendant cette période de temps, parce que je sais que Dieu va le faire. Et je travaille dans une entreprise qui aujourd'hui fabrique des avions et qui demain, on ne sait pas du tout ce qu'il en sera, ce qui va sortir après ça, parce que les avions, c'est le principe même de partager le microbe avec et de polluer la Terre. Mais je sais une chose. C'est que le Père prend soin de moi. Son amour pour moi, son alliance d'amour avec moi n'a pas changé. Et avec toi, elle n'a pas changé non plus. Père, tu es fidèle. Je reviens toujours à ce lieu de confiance. Quand je voyais ma femme qui était désespérée, qui pleurait quand elle avait le cancer et que je revenais du travail et que je voyais ça, ou que j'entendais ça alors que j'étais à distance et que je ne pouvais rien faire, je pouvais revenir vers son amour qui ne change pas, qui ne change pas. Il est fidèle, il est aimant, ses projets resteront fermes pour toujours. C'est ça ma conclusion aujourd'hui de ce message. Alors j'aimerais prier avec vous. Père, merci de ta présence. Merci de la compassion, de ton amour, de ta grâce. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Lorsqu'au milieu de l'épreuve, on se tourne vers toi, on te regarde. On n'est plus rien. On n'a plus de force. Et c'est là que ta grâce vient. C'est là que tu nous fais la grâce de pouvoir te parler, de pouvoir te voir tel que tu es. C'est là que tu nous fais la grâce de toucher à ta compassion. C'est là que tu nous fais la grâce de voir combien tu nous aimes. Père, je t'aime. Je veux être cet enfant, ce fils, comme ton fils bien-aimé. Je suis aussi ton fils bien-aimé. Mais je veux être comme ton fils bien-aimé, à l'écoute de qui tu es. Non pas à l'écoute de ce que les hommes disent et des épreuves, mais à l'écoute de qui tu es. Tu as fait une alliance avec moi. Tu as fait une alliance avec l'homme. Tu ne changes pas. C'est une alliance d'amour qui se retrouve en Jésus. Qui se retrouve dans l'alliance de Moïse, dans l'alliance de Noé, mais qui se retrouve en Jésus. Au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, que nous allons fêter la semaine prochaine, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés. Tu nous as exaucés des cieux. Tu as pris soin de nous. Tu nous donnes la manne chaque jour. Tu nous donnes le pain quotidien chaque jour. La manne, ça peut représenter aussi bien les choses de la nourriture, mais ça peut représenter ce qui nous permet de vivre chaque jour. Une pensée, une parole, un encouragement, une petite marche, un sourire, une action. N'importe quoi qui nous permet de tenir chaque jour ce dont nous avons besoin. Père, merci pour ta présence. Nous fermons nos oreilles à tout ce qui vient de l'ennemi. Nous combattons le bon combat de la foi. Nous écoutons ce qui vient de ton cœur. Nous écoutons ce qui parle d'amour et qui vient de toi. Pas de l'amour des hommes, selon la pensée des hommes, mais ce qui vient de toi. Et nous voulons partager. Nous voulons que notre doctrine, nous voulons que notre foi, nous voulons ce sur quoi nous sommes basés, puisse être entendu de la part des hommes qui sont autour de nous et qu'ils soient sauvés. Puisse être vu de la part des hommes qui sont autour de nous et qui cherchent des solutions et qu'ils soient sauvés. Parce que je crois que des hommes et des femmes cherchent ta présence dans ces moments-là. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Bénis chacun de mes bien-aimés, pourvois leurs besoins, quelle que soit la difficulté qu'ils rencontrent, quel que soit ce qu'ils vivent au fond d'eux-mêmes, dans leur vie, dans le secret de leur âme, dans le secret de leurs besoins, qu'ils n'oseront peut-être jamais exprimer. Père, je les bénis. Je les bénis. Que la bénédiction les accompagne. Ils sont de ceux avec qui tu as fait une alliance. Ils sont de ceux sur qui l'arc-en-ciel est posé, que tu mets en sécurité dans l'arche, que tu protèges dans ton arche, que tu mets en liberté face à toutes ces contraintes. Ils sont de ceux pour qui tu pourvois chaque jour. Ils sont de ceux qui sont tes enfants. Bénis-les, protège-les. Bénis ceux qui sont dans l'hôpital et qui ont besoin de t'entendre, nos frères et sœurs bien-aimés. Bénis-les, ceux qui sont dans le coma artificiel, intubés, bénis-les. Ceux qui sont des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas encore, bénis-les pour qu'ils te connaissent. J'entendais l'autre jour aux infos qu'il avait fait une expérience où il était sorti de son corps. Qu'il puisse connaître cet homme qui tu es, se repentir, se tourner vers toi. Père, que la grâce de Dieu, que les hommes et les femmes se tournent vers toi, reconnaissent qu'ils vivent dans la crainte de Dieu, non pas la crainte peur, mais la crainte respectueuse de qui tu es, qu'ils te reconnaissent pour qui tu es. Amen. Waouh. Waouh, waouh, waouh.